jazz en standard.
Le jazz est indispensable pour donner une force qui dépasse ce qu'on appelle la musique. Le jazz n'était pas une mode, et ça ne s'arrêterait plus.
Pourquoi ces terres chantées par le poète seraient-elles réservées à quelques privilégiés?
Le jazz est quelque chose qui forme une unité avec l'audience.
Ce sont précisément les gens qui n'aiment pas le jazz qui aiment dans le jazz le bruit.
Alors dans la série qui nous préoccupe, nous allons nous intéresser à une berceuse. En l'occurrence, le titre en anglais c'est Lullaby of Burland. Ce titre d'ailleurs a fait l'objet d'une traduction française à un moment et adapté à un spectacle qui s'appelait Lola ou la légende du pays aux oiseaux. Alors en réalité, c'est une ballade qui a été composée par George Shearing, qui était un pianiste d'origine anglaise et qui est allé vivre aux États-Unis. Un pianiste qui d'ailleurs était aveugle. Il fait partie de ces pianistes très intuitifs et qui donc ont donné au jazz ses couleurs un peu impressionnistes. Alors, est-ce dû à sa cécité? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une des caractéristiques de son jeu au piano et de ses compositions. Cette ballade donc a été composée en 1952. Alors en 1952, ben, le monde est à feu et à sang. Les États-Unis bombardent la Corée, la France fait la guerre en Indochine. Il y a des troubles un peu partout. L'Amérique latine, n'en parlons pas, c'est révolution, contre-révolution, les régimes s'échangent et les systèmes plus fascistes les uns que les autres se mettent en place. Enfin bref, la planète est à feu et à sang, comme je le disais, et... Eh bien, M. George Shearing, lui, loin de tout ça, il compose une ballade. La première interprétation, eh bien, on la lui doit et il la joue en trio avec la délicatesse qui le caractérise. Petite touche finale du pianiste. Alors les paroles, quand même, il y avait un parolier, même si elles ne sont pas géniales, les paroles étaient dues à un dénommé Forster, qui était le pseudonyme de George David Weiss, et qui avait donc qui a composé avec George Shearing ce morceau. Le titre, Lullaby of Burland, était donc dédié à Charlie Parker, puisque le Burland, c'était un club qui a été créé en hommage à Bird, donc à Charlie Parker, Et donc ce célèbre club de jazz new-yorkais a été le théâtre de la composition de ce morceau parce que Jean Schoering faisait une émission de radio et avec son trio, il jouait des thèmes, des morceaux pour une émission un peu style jazz club. Et ce morceau est devenu l'indicatif de l'émission qu'il faisait sur NBC, qui était le broadcast national qui donc émettait son émission. Alors la première version vocale que l'on peut trouver de cette composition, eh bien on la doit à Sarah Vaughan, Sassy, de son petit nom, son petit surnom, mais qu'on a mené dans le grand public la Divine, parce que c'était cette chanteuse qui avait donc 4 octaves de possibilités dans sa tessiture de voix. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Alors, elle a enregistré en 1954 en compagnie de Clifford Brown, un trompette qui malheureusement est décédé très tôt, à l'âge de 38 ans, je crois, d'un accident de voiture, qui était très prometteur. C'était un peu le concurrent de Miles Davis. Il est donc décédé, mais là, on entend la subtilité de sa trompette en fond avec donc la version qu'en donne donc Sarah Vaughan.
Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
À noter le passage à la batterie et au ballet de Max Roach, célèbre batteur de l'équipe des Beboppers d'après-guerre. Alors l'intérêt d'un standard, c'est qu'effectivement on peut le revisiter à l'infini. Et après cette version, ces deux versions même très mélodiques, très subtiles, délicates, eh bien un pianiste va se saisir de cette composition et lui, il va en faire tout à fait autre chose. Et comme à son habitude, il va jouer tout en percussion et ça va donner une version totalement différente de ce qu'on vient d'entendre. Il s'agit de Errol Garner.
Thank you.
Jazz en standard.